A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Non mais faut en faire deux, c'est l'astuce, t'en fais deux. Là t'en manges un direct à la sortie du four, c'est absolument délicieux. Oh, si tu mets de la glace en plus.
Oh là là, c'est le meilleur truc.
Non, désolé, mais les gens qui mettent de la crème fraîche, c'est bien. Mais les gens qui mettent de la glace, c'est mieux.
Hello!
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast de Mademoiselle du kiff et de la digression et surtout des recommandations diverses et variées. J'espère que vous allez tous et toutes bien, vous chers auditeurices, mais également vous autour de cette tablette d'enregistrement, puisque je suis accompagnée aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fanny à ma
droite. Coucou,
ça va
Fanny. Oh bah oui, ça va. Oui, je vais bien.
Tu viens de nous dire que tu avais dormi 5 heures par nuit ce week-end.
Mais de samedi à dimanche. Et là, cette nuit, j'ai bien dormi 8 heures. Donc ça va.
Ok, cool. Ariane est également avec nous. Comment ça va, Ariane?
Ça va super. Et vous?
Ça roule. Et toi, Anthony?
Bah ça va, à peu près. Je suis un peu malade, mais j'espère que c'est la fin d'un rhume.
Ah, on espère aussi. On espère aussi en attendant, si tu veux aller te faire
une
tisane.
Mais on est tous en noir aujourd'hui. On habille quasiment tous
en
noir.
Après, moi, je m'habille tous les jours en noir. Donc,
Mais vraiment, on est tous en noir.
C'est pas vrai, j'ai pas l'impression que t'es tous les jours en noir,
quand même,
Ariane. Ah ouais, c'est vrai ouais.
Bon, voilà, c'est juste remarqué ça.
Alors,
on pas
moi,
en
je tiens à dire que je suis en bleu marine.
Déjà. C'est
un bleu marine très foncé, mais c'est un bleu marine
quand même. Quand même, hein, madame.
Ouais. Et toi aussi, ton pull est bleu marine.
Oui, là, le mien, oui, mais pantalon noir. Voilà.
Bon, on est sur une tenue, un peu sombre.
C'est l'hiver.
Depuis le changement d'heure.
Hein?
Ma hantise.
Oui, on a changé d'heure.
Oui, mais la semaine dernière.
T'es pas au courant?
Si, mais la semaine dernière, pas récemment. On n'a pas changé.
C'est toujours à l'heure d'été.
Écoute, il y a un mood, voilà. C'est pas récemment, c'était il y a une semaine. Mais moi, ça fait une semaine que je m'habille qu'en foncé. Écoute, je suis passée dans le mood hiver.
C'est horrible le changement d'heure. Je peux mourir quand je sors du taf et qu'il fait nuit noire. C'est...
On est d'accord.
On
d'accord.
Mais c'est pour ça qu'il fait nuit aussitôt. Je me disais, oui, ça a changé vachement vite quand même. Mais oui, pardon.
Non, mais toi, tu es partie une semaine en vacances. Oui. On va en reparler. Et ça y est, elle est toute. Elle est plus sur le même fuseau horaire.
Alors que si,
c'est
alors
qu'elle
que
le
si.
Dire.
Alors je vous raconterai, voilà.
Tu vas nous raconter. Hein. Bon, pour ouvrir cet épisode, j'ai une question à vous poser, puisque avant de commencer à enregistrer l'épisode, comme chaque semaine, on se posait la question d'introduction. Et d'ailleurs, auditeurs et auditrices de LMK, si vous avez des questions que vous aimeriez nous poser en question d'introduction, n'hésitez pas à les envoyer en DM, on sera ravis de les prendre. Et puis ça nous donnera un petit peu de grain à moudre et puis un peu de nouveauté. Et Ariane, tu disais qu'on avait déjà fait la question de quel méchant êtes-vous ou quelle méchante. Et alors j'ai envie de vous poser la question suivante. Quelle personne en colère êtes-vous?
C'est une bonne question.
J'aime bien.
Voilà. Et bien Ariane, est-ce que tu veux commencer?
Alors, j'ai différentes personnalités en fonction du contexte. C'est-à-dire que si je suis en colère, mais je m'y attendais pas à l'être, typiquement, on m'insulte dans la rue, voilà. Là, je malheureusement, je tremble, je deviens rouge, mais il va un peu rien se passer, quoi. J'ai très peu de répartie, je crie pas sur les gens, je suis pas du tout physiquement violente, voilà. En revanche, si c'est, par exemple, une dispute et que je me mets en colère pendant la dispute, souvent, j'ai quand même tendance à hausser le ton. Je vais parfois dire des choses que je pense pas. Par contre, vraiment, je maintiens que je suis pas du tout physiquement violente. Enfin, vraiment, j'ai en horreur la violence physique. C'est horrible. Même juste, tu sais, ce truc de t'approcher de la personne un peu pour l'impressionner, machin, c'est pas
vas-y,
du tout.
Vas-y, c'est qui là? Vas-y,
mon truc.
C'est qui là?
Ouais, voilà.
Tu fais pas ça.
Tu peux nous faire jamais. Une démo?
Une démo de quoi?
De toi qui hausse le ton en disant des choses que tu vas regretter.
Non, arrêtez, on n'est pas on est au théâtre là.
Vieille pomme de pin.
Vraiment. J'insulte pas trop les gens aussi, je trouve ça un peu terrible. Mais je suis quand même globalement quelqu'un d'assez calme, c'est assez rare que je me mette en colère. Et surtout, j'ai une... Alors, soit fâcheuse tendance, soit c'est plutôt un atout, de ne pas du tout être rancunière. Moi, en fait, je me mets en colère Et vraiment, je pense 15 minutes plus tard, je suis passée à autre chose, le truc n'existe plus. Et alors, si on doit en reparler, on en reparle. Mais sinon, vraiment... Mais c'est parce que ça a toujours fonctionné comme ça dans ma famille. On avait des engueulades énormes à base de cris, claquages de portes, fugues et autres. Mais en fait, une fois que c'est passé, bah, fin de l'histoire. Et puis, on n'en reparlait plus jamais. Et ça ne me frustre pas, quoi. De... Je ne suis pas rancunière, j'en veux pas aux gens.
Mais... Voilà. Tu vas revenir quand même à la charge si tu as l'impression que le sujet n'est pas réglé ou tu vois si
non parce que j'aime préserver mais... ma quiétude.
Ouais, ta quiétude.
Et quand je considère que le débat est
clos.
Ouais, enfin que la personne n'entend pas ce que moi j'ai à dire ou qu'on trouve pas de terrain d'entente, tu vois, je me dis en fait ça sert à rien, chacun son truc, on passe à autre chose quoi parce que moi j'ai pas que ça à faire de m'énerver contre les gens. Voilà.
Ok, donc t'es plutôt une personne pisse et pas rancunière.
Non,
si
alors
je
vraiment,
résume.
Je suis pas du tout rancunière, ça c'est évident.
Ok, trop bien. Bah...
J'ai jamais fait la gueule à quelqu'un par exemple. Faire la
ah
gueule,
ouais,
c'est pas du
c'est
tout.
Dans...
Mais, ou alors j'arrête de parler, mais pendant 15 minutes quoi. Enfin, ouais. Vraiment, c'est ça ma façon de fonctionner. C'est... Au grand max, je peux faire ça. Quoi.
Et en couple, est-ce que t'es pareil?
Oui.
Ouais.
Ouais. En fait, ça dépend aussi de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que, par exemple, à l'heure actuelle, avec mon amante, on s'engueule jamais. Donc,
ah, c'est cool ça.
Il y a juste, si on a des trucs à se dire, parfois il y a des trucs qui me saoulent, je le dis, mais sur, enfin, comme je vous parle maintenant, quoi. Je le dis sur un ton normal. Et, mais parce qu'elle aussi, elle est très très calme, elle s'engueule avec personne, elle n'est pas du tout colérique. Enfin, voilà, si je suis avec quelqu'un d'un peu sanguin et tout, là je peux crier. Mais c'est mon max, quoi.
Mm. Ok.
Voilà.
Cool. Bah, merci Ariane.
Mais avec plaisir.
Fanny, qu'en est-il pour toi ?
Eh ben, pas tout à fait comme Ariane. C'est-à-dire, je peux être très rancunière, mais vraiment, il y a même des fois, j'oublie que j'avais pardonné à la personne. Je me rappelle juste que je suis encore rancunière.
Moi, c'est tout l'inverse.
Je dis, ah oui, non, mais je t'avais pardonné pour ça. Ah oui, mais là, j'avais gardé. Genre, le dernier souvenir en mémoire était que j'en voulais à la personne.
Et est-ce que ça t'arrive d'en vouloir à des gens et tu sais plus pourquoi ?
Oui, c'est vraiment, j'ai le sentiment de « Ah, cette personne, je lui en veux !» Donc, c'est pas top hein, d'être comme ça, donc j'essaie de changer ça, ou je peux m'énerver. Alors, bon, j'ai travaillé là-dessus avec ma psy, mais j'avais tendance à m'énerver comme mon père.
Ah,
en mode, en retournant le truc
connaît.
Et tout ça, vraiment. Donc maintenant, comme je me suis rendu compte de ça, je fais « Ah ok, on va arrêter de s'énerver comme ça ». J'ai parlé d'une petite anecdote avant l'enregistrement que je ne redirai pas parce que ça implique plein de choses. Mais clairement, quand on m'empêche de dormir, je deviens un démon.
Ça, on l'a bien
retenu.
C'est-à-dire
que je commence à élaborer des plans de vengeance, mais qui vont... Mais des choses horribles que je ne ferai jamais pour de vrai, vraiment. Mais j'y pense. Tu vois, pendant que j'arrive pas à dormir, je pense à ça. Et vraiment, il y a un petit côté vengeance froide parfois où je me dis... voilà.
Ah ouais. Échafaud.
C'est ça. Donc vraiment, je suis gentille en général. Il n'y a pas de souci. Mais je peux être très méchante.
Mais si on te met en colère...
Chier,
ouais.
Oui, voilà. Faut pas me faire chier. Mais par contre, voilà, si on m'énerve, comme tu disais, dans la rue ou quoi, j'ai de la colère très... Voilà, je tremble et tout ça, ou vraiment... Et souvent, je sais que quand je suis énervée, là, par exemple, j'aurai une réaction très spontanée, ce qui est un peu cohérent avec le reste de ma personnalité, mais où je vais crier, où ça va sortir, en fait, donc ça sorte.
Tu dirais que t'es une personne qui se met peut-être pas souvent en colère, mais en tout cas, quand t'es en colère, il n'y a plus de retour, quoi. Enfin, il faut que le feu sorte.
Ah oui, je préfère tout sortir plutôt que contenir, en fait.
Ouais, mais t'as...
Ouais, mais c'est plus sain. C'est...
Ouais,
je pense
voilà,
que ta psy
voilà.
dirait que c'est sain aussi.
Oui, c'est ce qu'elle me dit, oui.
Anthony, quelle personne en colère es-tu ?
Je pense que je suis peu souvent en colère. Les gens ne m'énervent pas à ce point. Et sinon, les rarissimes fois où je me mets en colère, c'est une colère qui est très froide. Et en fait, je te règle de ma vie, quoi. J'ai pas le temps.
Ouais. j'ai pas... Mais du coup, tu vas pas confronter la personne...
Si je préfère la rire de ma vie.
Même tes amis chers ?
Bah du coup, on se met jamais en colère les uns contre les autres parce qu'on se parle, on communique très bien, c'est pour ça que c'est encore mes amis. Mais j'ai les mêmes amis depuis des dizaines d'années généralement, donc ça m'arrive assez rarement d'être déçu par des amis ou des choses comme ça. Je fréquente pas les gens que je trouve pas fiables.
Et tu dirais que cette colère qui te fait rayer les gens de ta vie, là on est chez le psy, oui.
Vraiment.
Mais t'as permis de faire le tri autour de toi et de peut-être resserrer ton cercle à ses amis fidèles.
Je pense qu'être catégorique et intransigeant au quotidien fait que je suis entourée que de personnes que j'estime énormément et qui me déçoivent jamais.
Et en couple.
J'aimerais être comme toi, Anthony.
Je t'ai pas posé la question, non, mais sur le. Et en couple.
Pareil.
Et en couple.
Je supporte difficilement les. Le manque de fiabilité, du coup, j'arrête très vite si la personne...
Mais est-ce que le fait d'être en colère, peut-être parce que t'es pas d'accord avec quelque chose ou parce que t'as été déçu par quelque chose, je sais pas, un ami en retard ou j'en sais rien, est-ce que c'est du manque de fiabilité ?
Quelqu'un qui est en retard, ça me met pas en colère. Enfin, des amis, en tout cas, ça me met pas en colère, mais c'est plus quelqu'un qui va annuler pour un motif scabreux ou des choses comme ça. Enfin, et encore, ça va même pas me mettre en colère, ça va juste...
Tu vas juste te dire « je raille », quoi.
Non, ça va pas me décevoir. C'est rare ici les gens qui me déçoivent. Et généralement, les gens qui me déçoivent, je les fréquente plus. Mais pardon, c'était quoi la question ?
Non, 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 mais c'est intéressant. Parce que c'est vrai que c'est une approche qui est hyper pratique de s'entourer finalement que de gens avec lesquels t'es d'accord, j'ai envie de dire.
Non, non, mais le conflit n'est pas une agression. Ça m'arrive d'avoir des disputes avec des amis ou des discussions houleuses, mais ça me met pas en colère parce qu'en fait, je les aime tellement. Que je sais que même quand on s'embrouille, c'est out of love. Enfin, je prends la peine de m'énerver avec des gens. C'est même pas de l'énervement d'ailleurs. Je prends la peine de débattre avec des gens dans ma sphère personnelle que si on est dans une sécurité affective suffisante pour que ça se passe bien après ou que ça remette pas en question toute notre relation, quoi. Du coup, même quand ça m'arrive dans des. Ça m'est arrivé récemment en vacances avec ma meilleure amie. On a une discussion hyper houleuse et on a cet humour qui est très particulier. En fait, on adore plaisanter juste après la dispute. Sur le truc qui nous a énervé profondément. Et donc, on adore en faire des blagues, et ça permet de désamorcer la chose d'une part, et d'autre part, de se rappeler des nœuds de tension, et de se dire, ah, ok, le terrain est miné, mais on arrive à en rigoler et tout. Et je trouve que c'est parce qu'on a beaucoup de sécurité affective l'un envers, enfin, ensemble, et que c'est possible, quoi.
Donc, colère froide, et sinon, pas de colère.
Bah, je suis rancunier au point de, j'ai même pas le temps de retenir de la rancœur pour les gens. C'était un anglicisme très bizarre. D'avoir de la colère pour des gens. Je préfère ne pas avoir de colère et ne plus te voir.
Tu préfères t'épargner d'avoir de la colère envers les gens
Si je commence à ressentir de la rancœur, eh ben, j'arrête de te fréquenter.
Et comment tu fais quand c'est des gens que tu ne peux pas arrêter de fréquenter ?
C'est pas possible. Dans la vie perso, tu peux toujours arrêter.
Ouais, mais dans ta vie pro, par exemple ?
Ah bah, c'est plus compliqué, oui. Mais
Tu dois quand même dealer avec ce...
Ouais, mais c'est rare en vrai, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'anime beaucoup. Enfin, j'ai pas le temps de me mettre en colère. Je suis vraiment... Je sais pas comment dire.
J'imagine trop.
Non mais j'adore. Anthony,
je suis pressée. J'ai pas le time.
Non mais je comprends les.
J'ai la mère d'une amie qui disait un truc tout bête. Je sais plus c'est quoi l'expression exacte, mais ça m'atteint pas. C'est comme le plumage d'un canard. Enfin, ça me pisse dessus, quoi.
Ouais. Et en même temps, c'est hyper sain, je trouve, parce qu'effectivement, on a déjà suffisamment de nos frustrations personnelles ou de nos soucis perso pour se rajouter de la colère liée aux autres. Surtout si c'est des gens qui t'importent pas, enfin je veux dire des gens qui sont pas proches et où tu te dis que ça mérite pas.
Bah, je pense que c'est important de faire preuve de stoïcisme aussi, de se dire si je peux agir dessus, bah je le fais, et si je peux pas agir dessus, bah je passe à autre chose, quoi.
Ouais, trop cool.
Et merci. Toi, c'est quoi ta gestion de la colère ?
Alors, moi j'étais très très. Je me mettais très facilement en colère quand j'étais plus jeune. Je pense aussi parce que j'ai un père qui mettait souvent le feu aux poudres. Vraiment, qui me titillait tout le temps, qui savait attiser la colère
horrible,
en moi.
C'est ça, avec la famille.
Ah ouais, c'est horrible. Mais en revanche, ça m'a aussi appris que tu peux te disputer ou t'engueuler avec tes proches et qu'en fait, c'est pas grave. Ça fait partie aussi d'une façon de se dire les choses qui est peut-être pas forcément la plus saine. Mais avec mon père, on se disait souvent, parce qu'on s'engueulait et après, je revenais en lui disant oh, « je suis désolée, papa ». Vraiment, je t'ai mal parlé ou j'en sais rien, je me suis mise en colère pour rien. Et il m'a toujours dit, écoute, c'est pas grave, ce qu'on se dit entre toi et moi, c'est comme si ça allait au milieu, dans un bac à papier, dans une poubelle, et que voilà, on gardait que si quelque chose de sain en avait découlé, et sinon, ben, on oublie. Mais voilà, j'étais quand même très, je me mettais facilement en colère étant plus jeune. Et je me suis rendu compte en partant de chez mes parents, j'ai toujours pensé que j'étais colérique, vraiment. Je me disais, mais t'as une personnalité colérique. Et c'est en partant de chez mes parents que je me suis rendu compte que je n'étais pas colérique. Mais qu'en fait, genre en partant de chez mes parents, au bout de 2 mois, je me suis dit mais attends, tu t'es pas mise en colère.
Calme.
Ouais. Et du coup, j'ai capté qu'en fait, bah, c'était parce qu'il y avait mon père qui mettait ce feu aux poudres. Et j'ai pu redécouvrir ma personnalité de personne en colère ou non sous un jour différent. Et aujourd'hui, je dirais que j'aime bien quand même le fight. Il y a un truc, je sais pas. Non, mais ça doit être mes origines grecques, tu vois, on dit le sang chaud, genre ça.
Les Grecs,
ils se vénèrent grave, je te jure.
Moi, les Italiens aussi, cela dit.
Eh ben, oui, bon, tu vois, il y a un truc de méditerranéen, je sais pas. Mais, mais j'ai des souvenirs de mon grand-père qui pédait des câbles pour rien et tout, vraiment, sur le prix du poisson au supermarché. Et
moi,
il hurlait dans les rayons.
Ces gens comme ça.
Je comprends pas.
Qu'est-ce qui s'est accumulé en vous pour que vous extériorisez telle colère en public, vraiment. Moi, ça me frustre.
Je te rassure, je ne hurle pas sur le prix du poisson dans les supermarchés, mais n'empêche que il y a un truc de j'aime le fight. Mais c'est pas que.
On marche de Valois avec Kalindi en train de t'énerver sur le.
Oui, Kalindi, si tu nous écoutes, on ira un jour toi et moi au marché de Levallois hurler sur le prix du poisson qui coûte une blinde, clairement. Et c'est pas que à cause de l'inflation, bien évidemment. Mais n'empêche que, ouais, non, c'est pas ce genre de... C'est pas que j'aime me mettre en colère, mais j'aime bien les débats houleux. Il peut y avoir une dispute. Je sais, en fonction de la personne, évidemment, que derrière cette dispute, elle va se régler et qu'on en rigolera, tu vois, comme tu le disais, Anthony, avec ta meilleure pote, et qu'au final, ce sera sain. Donc voilà, mais avec l'âge, genre le grand âge, mais plus je mûris, plus je vieillis, moins j'ai envie de me disputer et moins ça me fait rire d'être en colère parce que, comme le disait Anthony aussi très bien, pas le temps en fait, enfin, trop d'autres choses à gérer déjà pour moi que de gérer des colères et des disputes avec d'autres personnes. Et le versant en plus de tout ça, c'est que moi je suis assez dramatique. Alors j'ai beaucoup de réparties, en revanche, ça, il n'y a pas de sujet, je vais te prendre sur le point que t'as mal dit dans ta phrase, tu vois.
Ah, c'est vraiment... horrible.
Ouais, moi je suis comme ça, j'assume, et mon mari pète un câble, clairement. Mais je suis aussi très dramatique, et autant à la fois je peux me dire c'est pas grave comme dispute, c'est quelqu'un de proche, et autant je peux me dire oh, mon Dieu, mais c'est dramatique, on va jamais s'en remettre, alors que si, on va s'en remettre en fait. Et ça, à mesure que le temps passe, j'ai envie de me l'épargner. Parce que la flemme. Pour résumer, j'aime bien me mettre en colère, mais de moins en moins quand même.
Moi, j'ai une question.
Ouais.
Est-ce que c'est différent avec ta fille ?
Oui, c'est différent parce que j'ai pas envie de me mettre en colère avec elle. Surtout que là, elle est petite, donc elle comprend pas trop, tu vois. Et à cet âge-là, ça marche mieux si tu leur expliques calmement que si tu te mets en colère. Mais
donc
sauf
tu
que
es une maman
fois,
calme.
Je suis une maman laxiste, surtout. Mais il y a des fois où t'as juste pas de patience et t'es crevé et du coup, bah oui, tu te mets en colère et là, je culpabilise à mort. Enfin, parce que je me dis, mais ça sert à... Enfin, elle a pas compris de toute façon, elle a juste vu que je m'étais énervée contre elle, ça l'a fait pleurer et après, je me dis, t'es une mère nulle, putain, et là, je me culpabilise et voilà. Mais j'avoue, j'ai choisi mon combat et mon combat, c'est d'être le parent laxiste. Et je laisse à mon mec la responsabilité d'être le parent...
Le bad cop.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Mais sur les parents, je sais que ma mère et moi, on se dispute beaucoup. Je sais que c'est aussi par amour. Et j'ai envie que ma colère ne s'exprime qu'avec des gens qui en valent la peine. Et je déteste m'énerver pour des choses qui n'en valent pas la peine, à mes yeux. En tout cas, du coup, je ne m'énerverai pas contre le prix du poisson, en fait. Je ne vais juste pas acheter de poisson.
Ouais, ouais.
En revanche, je peux me disputer avec des gens que j'aime. Parce que j'estime qu'ils en valent la peine. Et ma mère et moi, donc, on se disputait souvent. Mais mon père, par exemple, il suffisait qu'il me fasse les gros yeux pour qu'il me mette à pleurer.
Oh non.
Ah ouais.
Et non, mais du coup, ça a marché très bien. Enfin, il n'avait jamais besoin de me disputer ou quoi que ce soit. Il me faisait les gros yeux. Après, il a des yeux qui peuvent devenir globuleux assez facilement. Et j'étais terrorisée, quoi. Et je me rappelle des 3-4 fois dans ma vie où il l'a fait. Et vraiment, je m'en rappelle encore.
Ça, c'est un pouvoir qui m'impressionne, moi. Parce que... Moi, j'ai tellement zéro autorité avec ma fille que vraiment, genre, je suis là, je compte jusqu'à 3. Et puis, tu sais, à 3, elle est toujours pas là, évidemment, ou elle a pas fait ce que je disais. Et le père de mon mec est comme ton père, il lui suffit de faire les gros yeux, j'ai déjà vu le faire et c'est flippant. Et ça m'impressionne grave parce que c'est tellement pratique, putain.
Ouais.
Sans transition, avez-vous des commentaires cette semaine ?
Nyon.
Moi, j'en ai un. Alors, en plus, il date un petit peu, mais parce que c'était un commentaire avec un podcast dedans. Alors, je lis ça. Alors déjà, c'est mon premier commentaire, je crois.
Hey,
donc, je suis très émue. Alors, donc, je lis. Salut Fanny. Ici, une fidèle LM cœur, Lovela. Déjà, bienvenue dans LMK. C'est très cool qu'il y ait des nouvelles personnalités et j'ai déjà hâte d'écouter ton podcast. Je voulais te recommander notre podcast, vu que tu demandais un peu des recos. Certes. Et comme le podcast N'importe qui nous intéresse beaucoup, donc j'avais parlé de podcast sur le porno, peut-être que le nôtre te plaira aussi. On est une team de 4 personnes très différentes du point de vue de notre vécu et sur les relations amoureuses et sexuelles, et on parle librement sur un thème à chaque fois. Donc le podcast s'appelle le Bisoudrome. Par exemple, est-ce que l'amour est aveugle? Est-ce que l'amour est une amitié comme les autres? Comment la sexualité est en jeu? Etc. On arrive chacun avec notre point de vue sur le sujet et avec une rubrique. Soit on raconte notre vie, soit on a des chiffres ou des lectures sur la thématique. Alors elle dit oui, surtout n'écoute pas le premier épisode parce qu'on a des problèmes de son. Donc écoute à partir du 2. Donc ça c'est déjà un très très bon conseil à me dire. Laisse-nous savoir si tu as écouté et aimé. Et moi je retourne écouter tes recos dans LMK Love La. Et donc le podcast Le Bisoudrome, j'ai écouté et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, là, j'ai écouté déjà les 6 premiers, donc pas le premier, mais donc on va dire 5 épisodes, et j'adore.
Ça a l'air bien, ça a l'air
super. C'est vachement bien, et ben, ça parle de relations donc amoureuses, relationnelles, sexuelles, ça parle beaucoup de sexe de façon très crue, donc pas si crue que ça quand même, mais c'est très intéressant, beaucoup de réflexions, même moi, ça me fait pas mal réfléchir, donc là, vraiment, là, je suis en train de binger le podcast, dès que je sais pas quoi écouter, hop, le Bisoudrome. Donc merci beaucoup Lovelap pour la reco, j'aime beaucoup. Donc s'il y a d'autres recos de podcast, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc c'est mon compte Instagram, c'est Passion Médiéviste. J'ai pas de compte Instagram à moi. Voilà.
Mais c'est toi Passion Médiéviste.
Ne t'énerve pas Fanny, tout va bien.
Elle a dormi que 5 heures.
J'ai oublié.
Mais ça a l'air trop chouette. Oui. Et j'adore le nom Bisoudrome. C'est
mais oui.
Ouais, c'est une question qui m'intéresse vachement.
Sur les façons de se faire des bisous. Donc
est-ce que ce serait pas un mini kiff Bisoudrome?
Voilà, c'est un mini kiff de totalement.
Trop mignon.
Trop bien. Anthony, toi, t'as un commentaire ?
Oui, j'ai un commentaire. J'en ai un premier de Prononcer Louvre qui m'envoie une photo de Crumble. Je ne me rappelais même pas avoir parlé de Crumble dans LMK. Mais...
On a dit que c'était trop bien. On a dit que c'était trop bien.
Le pire, non, le mieux. C'est qu'en effet, encore ce week-end d'ailleurs.
Oui, moi aussi.
C'était absolument délicieux.
C'est trop bon.
Voilà. Vraiment, faites la dose de Crumble. Je trouve que vraiment le mieux, c'est quand ça compote bien et qu'il y a une vraie couche de fruits. Bien dense, qui a vraiment le temps de compoter, et ensuite une vraie couche de biscuits. Et ce qui est délicieux, c'est quand le dessus croustille bien, et le dessous, il a l'air un tout petit peu sous-cuit.
Oh là là. Et ça met trop l'eau à la bouche.
Oui, je mets de la cannelle.
Ah oui.
Et là, du coup, j'ai fait une maxi dose de crumble parce que je reçois mon club de lecture ce soir chez moi. Et donc, j'en ai fait 2. Et comme je suis un hôte parfait, désolé de me lancer des fleurs, mais il le faut, j'ai fait 2 crumbles. Un avec de la cannelle, de la noix de muscade, de la vanille et du gingembre. Et l'autre, nature peinture pour les gens qui ont un palais d'enfants, car ça existe. Et ils sont là, j'aime pas la cannelle. Et je leur dis, oui, alors, comme tu as pas de goût et que ton palais ne s'est pas développé, voici un crumble.
Et tu vas leur dire ça ce soir.
Et est-ce qu'il est vegan ou pas vegan?
Oui. Non, il n'est pas vegan. Mais okay. J'ai une recette de crumble vegan.
Ouais,
aussi.
Je me demandais,
Je pourrais faire un article.
Balancer les recettes.
Moi, j'ai une super recette, si vous voulez, de Pierre, mais c'est vraiment pas très compliqué. Mais il avait fait le Larousse des desserts. C'est une ancienne édition et vraiment sa recette de pâte, c'est quoi? C'est une
pâte à crumble
en fait. Ouais. Voilà, elle est trop bonne, trop trop bonne.
Mais il y a un secret particulier ou c'est vraiment des ingrédients de base?
C'est juste les ingrédients et le dosage. Et
Alors moi je veux toutes vos recettes hein, parce que j'en ai fait un ce week-end. C'était la première fois de ma vie que je faisais un crumble.
De ta vie?
De ma vie, moi-même. Okay. Et oui, je ne cuisine pas.
Oui, non, mais
en ce moment j'ai l'impression que t'es un peu cuistot.
Bah alors, je ne cuisine pas, oui, je coupe des légumes et je les fais rôtir au four. Je ne sais pas si on peut appeler ça la cuisine.
Mais t'as ton propre bar à salade.
J'ai mon propre
bar à salade. Tu continues le bar à salade?
J'ai lâché.
Ah, t'arrêtes avec
l'hiver. Il commence à faire froid.
Mais oui, c'est l'hiver. Mais juste, vraiment grosse parenthèse, et après je te laisse terminer Anthony, désolé. Mais donc, premier crumble que je fais de ma vie. Moi, j'étais persuadée que c'était très difficile de faire un crumble.
Il n'y a pas plus simple.
Mais il n'y a pas plus simple. Et c'est bien ça, ma découverte incroyable du week-end. Et je l'ai trouvé très bon, alors que c'était le premier que je faisais, que j'ai fait un mix entre 2 recettes trouvées sur Internet. Du coup, je suis absolument preneuse de vos recettes, parce que je me dis, si c'était bon en faisant juste, pour la première fois, une recette trouvée dans les tréfonds d'Internet, qu'est-ce que ce sera si je fais ce que vous avez dit là?
Faut qu'on fasse une dégustation de crumble de nos différentes recettes.
C'est clair.
Non, mais moi, c'est food porn quand je t'entends raconter comment tu fais compoter les fruits et le dessus qui est croustillant et le dessous qui est un petit peu... Oh là là.
Et petit tips archi basique, mais pour passer à l'étape supérieure des crumbles, Marie-Stéphanie, vu que tu as réussi l'étape 1, c'est de mettre la moitié de la farine, de la remplacer par de la poudre de l'oléagineux de ton choix. Donc ça peut être de la poudre d'amande ou de noisette ou autre. Et c'est délicieux.
Oh, bien sûr. Et d'ailleurs, dans la recette de Pierre Hamé, C'est du génie, évidemment. C'est délicieux.
Non, mais dès que tu as dépassé l'étape 1 du crumble, c'est l'étape 2, c'est la base.
Moi, ça fait 10 ans que je suis à l'étape 1 alors. Hein. Mais je kiffe. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je me suis dit que je vais en faire un ce week-end.
Ce week-end, je passe à l'étape 2.
Et après, l'étape 3, c'est de mettre des morceaux d'oléagineux dans le biscuit. Plutôt que ce ne soit pas juste de la poudre. Et donc, tu peux mettre poudre d'amande et des morceaux de ton noisette. Et là, t'as encore des textures supplémentaires.
Oh God.
Voilà, je m'arrête là.
D'accord.
J'ai complètement oublié de lire le commentaire. Donc, prononcez Louvre m'envoie une photo d'un crumble. Je me rappelais même pas en avoir parlé. Et elle dit, je cite, « T'as parlé de crumble dans le dernier, Alenka. Et comme par hasard, j'en avais préparé deux pour mon retour ce soir. Hihi, mon mec est parti en vacances en Corée du Sud. Sans moi, car je suis retourné à l'école. Je me console donc comme je peux avec les réjouissances de l'automne. Et heureusement, il y a Alenka. Des bisous. »
Oh, trop mignon.
Merci beaucoup, prononcez Louvre.
Ok, bah trop bien, ça me donne envie de manger des crumbles, je sais pas vous, mais un jour on va vraiment se faire un LMK bouffe, non?
Le problème c'est que moi quand j'en fais un plat, je peux pas m'arrêter.
Non mais faut en faire deux, c'est l'astuce, t'en fais deux, bah, quand t'en manges un direct à la sortie du four, c'est absolument délicieux. Si tu mets de la glace en plus.
Oh là là, mais c'est le meilleur truc.
Non, mais... les gens qui mettent de la crème fraîche, c'est bien. Mais les gens qui mettent de la glace, c'est mieux.
Ouais, je suis d'accord. Oh,
oui. Enfin, l'écart de température entre le chaud du crumble et le froid de la glace.
C'est trop fort.
En plus, la glace, elle n'est pas obligée d'être à la vanille. Tu peux faire un truc encore mieux.
Ouais. Tu mets quoi?
Bon, moi, je suis très très décadent. Du coup, je mets de la cookie dough.
Ok, et pas mal.
Pourquoi pas?
Mais j'aimerais bien tester avec des sorbets, genre.
Ouais, ça doit être bon.
Que ce soit moins lourd.
Ça doit être bon.
Incroyable, ok.
Imaginez ta glace vertillon. Bon, pardon, ça
mon dieu, non, mais c'est grave, hein, je vais commencer à gargouiller.
C'est indécent. Stop.
L'étape 4, c'est les crumbles salés. Mais bref.
Putain, j'allais le dire.
C'est tellement bon, les crumbles salés aussi.
C'est genre quoi, les crumbles?
J'adore en faire avec
des légumes. Bah,
avec du parmesan.
Oui,
du
parmesan. Légumes rôtis.
Légumes rôtis.
Mais là, je vais faire un arrêt cardiaque.
C'est délicieux.
C'est trop pour moi.
Mais bien sûr. Mais tu vas voir que la cuisine est à ta portée, Marie-Céphalie.
Sauf que c'est vraiment inratable, quoi.
Disait Gusto, tout le monde peut cuisiner.
C'est qui, Gusto?
C'est dans Ratatouille, merde.
J'avais pas la ref, désolé.
Moi, je l'avais, je l'avais.
C'est pas la première fois que tu sors des rêves qu'on n'a pas, Ariane.
Écoutez.
Non, mais t'as raison. En plus, je trouve ça très méditatif de cuisiner en réalité. Avoir préparé ma petite pâte à crumble, je trouvais ça assez agréable comme moment. Donc, tu mets un petit podcast.
Attends, mais par curiosité, est-ce que tu es du genre à avoir trop de temps et faire cuire tes fruits tout seul et ensuite les mettre au four avec le biscuit dessus?
Alors, là, en l'occurrence...
Non, mais il y a des gens qui font ça, je suis choquée.
Ouais, là, en l'occurrence, j'ai fait ça dimanche, donc j'avais du temps. Et c'est pour ça que je dis que j'ai fait un mix des deux recettes, parce que dans la première recette, ils me proposaient de mettre les fruits directement, donc non cuits, au fond du plat. Et dans la deuxième recette, ils proposaient de les faire cuire avec un petit peu de cannelle, un petit peu de sucre et tout. Donc, je les ai fait cuire. Et franchement, c'était assez satisfaisant.
Non, on passe le podcast à parler de crumble, on oublie les kiffs, on fait que
C'est un podcast kiff unique, les crumbles.
Les crumbles.
Mais est-ce que ça... Alors, j'ai quand même une question du coup, parce que vu que j'ai testé que cette manière-là de faire, est-ce que ça a quand même la même... est-ce que c'est aussi bon quand tu les fais cuire directement dans le four? Est-ce que tu les fais cuire plus longtemps?
Oui. Je ne sais pas combien de temps toi tu les as passés au four, parce qu'en fait, les gens qui... font d'abord compoter leurs fruits à la poêle avant de les mettre dans le four sous le biscuit.
Ouais.
C'est parce qu'ils mettent le biscuit à cuire 10-15 minutes, voire sous position grill.
Ah non.
Mais moi, je trouve ça dommage et surtout un manque total d'optimisation du coup, du temps et de l'espace. Donc, je ne fais pas ça. Désolé, j'ai pas votre temps. Et je mets les fruits dans le fond de mon plat. Je les imbibe de sucre vanillé. Parfois, je mets du shrub ou un alcool sympa.
Du quoi?
Une liqueur d'orange antillaise.
Ok.
Ah.
Si vous n'avez pas de shrub chez vous, fait par votre grand-mère, désolé pour vous.
Je suis blanche.
Moi aussi.
Mais vous pouvez mettre du Cointreau, par exemple, c'est très français.
Okay.
Liqueur d'orange amère et douce.
Est-ce que tu as déjà publié cette recette sur le site de Mad ou pas? Ou puis-je trouver ta recette, en somme, que je puisse tester ce week-end et toi aussi d'ailleurs?
Ok, je peux peut-être l'écrire pour ce week-end alors.
Bah, comme ça, on la teste ce week-end.
Et
Fanny,
on la mettra en référence dans la description.
Oui, si vous voulez, ouais.
Cool.
Si tu n'arrives pas à la publier sur ce week-end, c'est pas grave. Mais pour ce week-end, c'est pas grave, mais voilà, je veux vraiment tester. Mais parce que surtout... là, c'est plus le niveau 2, c'est le niveau 7.
Non, là, c'est assez basique. Et justement, ne complexez pas les crumbles, c'est inratable. Et du coup, faites-vous confiance. Parce qu'en vrai, c'est l'essentiel. Et du coup, vous pouvez agrémenter vos fruits comme vous le souhaitez, foutre tout ça dans un plat, mettre votre biscuit par-dessus, mettre au crumble, mettre à cuire, pardon, dans le four, et basta cosy, quoi.
Trop bien.
Et c'est quasi inratable. Et là, tu les mets à cuire au moins une demi-heure, et comme ça, ça a le temps de compoter. Et parfois, t'as un petit peu de jus qui remonte et ça fait une espèce de caramel près du biscuit.
Oh là 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 Écoutez, merci pour ce moment de pur plaisir auditif et gustatif. Bientôt, parce qu'il m'en reste ce soir. Je vais en manger ce soir. Petit crumble. Mais je vais vraiment tester ce week-end. Et on s'en reparle lundi pro. Enfin, oui, parce qu'on enregistre le podcast lundi. Voilà, comme ça, vous savez tout.
Mon Dieu.
Quel scandale.
Tu révèles des secrets d'État, là.
Ouais. Et avant de passer au kiff, je vais moi-même lire le petit commentaire qu'on a reçu sur le compte de LMK.
Ouais, c'est ça.
Il y a un petit moment déjà, puisque c'était mardi dernier, je crois, mardi d'il y a 2 semaines, un message absolument adorable de Duncan qui dit « Bonsoir à tous, je voulais écrire un message à Marie-Stéphanie, mais je n'arrive pas à trouver son Insta perso, alors me voilà ici. J'adore ce que vous avez fait de cette nouvelle saison de LMK, j'adore la douceur de votre voix et de votre ton, j'ai l'impression de m'envoyer des fleurs en lisant ça. Je vous trouve très apaisante et bienveillante, je vous trouve toute brillante. » Nous tous. Et c'est très agréable de vous écouter, donc merci. Duncan, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Enfin, ça me va droit au cœur, ça réchauffe le cœur, ça fait trop plaisir de recevoir un message comme ça.
Oui.
Et j'en profite du coup pour glisser mon Instagram.
Qui est déjà dans la description de cet épisode normalement. Hein. Chaque épisode, il y a le Instagram de chaque personne qui est dans le podcast.
Je ne vais pas le glisser.
Non, mais tu peux le redire, mais voilà, pour les personnes qui nous écoutent, vraiment, il y a le Instagram d'Ariane, d'Anthony, ouais, le mien, le tien, dans chaque description d'épisode.
Donc, tu pourras le trouver dans les notes de l'épisode. Et si jamais, c'est Marist, S-R-V-S, M-A-R-I-S-T-E, S-R-V-S, si tu souhaites m'envoyer un petit message, ou que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Donc, merci beaucoup pour ces gentils messages.
Merci.
Et sans transition, du coup, c'est l'heure des kiffs. On a encore fait une intro assez longue, finalement.
Une bonne demi-heure. Oh, bah, voilà. C'est bien standard.
Ça va,
vitesse de croisière.
Classique. Puis c'était quand même pour parler de Crumble et autre chose réjouissante. Mais Fanny,
oui,
j'ai envie de commencer par toi pour le kiff cette semaine, parce que tu m'as trop teasé avant d'enregistrer l'épisode.
C'est ma technique. Je te tease maintenant et à chaque fois, t'as envie de savoir.
Voilà.
Je vais partager un kiff, alors qui est en continuité avec un kiff de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, notre invité, donc Pauline, a parlé de sa passion dévorante pour le ping-pong et avec le club où elle va et tout ça. Donc moi, je vais vous parler de sport. Et alors déjà, disclaimer, je ne suis absolument pas sportive. Vraiment, je ne suis pas du tout la nana sportive. J'ai jamais fait de sport quasiment.
J'ai l'impression que tout le monde dit ça dans ce podcast.
Mais vraiment,
c'est la vérité. Hein.
Je dis ça parce que voilà, et je vais parler d'un sport que j'aime faire, que je fais depuis mes 12 ans. C'est le surf.
Excuse-nous.
Non, mais voilà, donc, je vais vous dire. Parce que le surf, c'est un truc assez physique, mais voilà, je dis tout de suite que moi, de base, je ne suis pas sportive du tout. Alors, donc, je l'ai déjà dit, je crois, j'ai grandi au Maroc parce que mon père est franco-marocain. Donc, j'ai vraiment vécu 18 ans à Casablanca. Et j'y retourne souvent parce que j'ai ma grand-mère qui vit là-bas. Donc, je sais, c'est pas bien de prendre l'avion souvent, mais bon, tant que ma grand-mère est encore vivante, je veux la voir le plus souvent possible. Et puis, je prendrai moins l'avion le plus tard possible, je l'espère. Bref, et donc, depuis que je suis petite, je fais du surf. Surf dans la mer, hein, bien sûr. Parce qu'il y en a qui disent surf pour la montagne. Mais qui sont ces gens, bien sûr.
Ah oui, le snow, quoi.
Voilà, le snow. Mais vraiment, un jour, je dis à quelqu'un, ouais, je fais du surf dans la neige. Non, dans l'eau. Et j'ai vraiment commencé adolescente, où tous les étés, j'allais en colo de surf, en fait, où je faisais une ou deux semaines. Et en plus, à l'époque, quand j'étais adolescente, on n'avait pas Internet sur nos téléphones et les portables étaient confisqués. Donc, c'était vraiment de la déconnexion totale. Et vraiment, de mes 12 ans à mes 18 ans, chaque été, j'ai fait ça quelques semaines. Je faisais avec ma sœur. Et j'adore le surf pour plein de choses différentes. C'est l'état d'esprit un peu cool. Mais pas cool, genre on se la pète. C'est vraiment non, juste on est relax. C'est vraiment dans le côté, on est en détente, on vit au rythme des vagues. Et alors je le dis tout de suite, je suis une surfeuse en carton. Je surfe, mais comme une patate. Mais j'adore la sensation de glisser. La sensation de glisser, vraiment, c'est quand on est sur la vague. Alors vraiment, moi je surfe aussi, donc encore maintenant, mais je surfe là où j'ai pied. Parce que moi, donc, j'ai des petits bras pas très musclés. Donc, s'il faut partir au large et que je me fais emporter par le courant, clairement, ce n'est pas mes bras qui vont me ramener. Donc, je surfe là où j'ai pied, donc ce qu'on appelle les reformes, donc vraiment dans la mousse, en fait. Moi, je surfe dans la mousse. Quand j'essaie de me mettre debout sur la planche, alors normalement, on appelle ça un take-off. Quand je suis sur le sol ici, je peux te faire un take-off très bien, parfait, très fluide. Mais alors, sur une planche,
c'est n'importe quoi. Je mets les genoux, vraiment, j'essaie de monter. Mais une fois que je suis debout, j'adore glisser comme ça. Et vraiment, cette sensation-là, je suis accro. Parce que donc, même maintenant, alors que donc, je ne vis plus au Maroc, mais dès que je peux, j'y vais. Et donc là, j'étais au Maroc la semaine dernière pour voir ma grand-mère. Et j'ai profité, jeudi dernier, au moment où sortait le dernier LMK, j'étais à la plage, en train de surfer. C'était vraiment la veille de rentrée. Je me suis dit, bon, allez, il fait un peu beau, je suis en forme, let's go. Et c'était si cool. Et vraiment, ça m'a fait tellement du bien. Et voilà, j'ai surfé pour l'instant que au Maroc et un petit peu en France. En fait, clairement, en France, c'est beaucoup plus cher. C'est aussi qu'en France, c'est beaucoup plus cher. Je me suis renseignée. Par exemple, l'été dernier, je faisais pas grand chose. Je me suis dit, est-ce que je vais pas aller voir en Bretagne, en Sud-Ouest? Mais en fait, entre le coût du logement, le coût des cours et tout ça, j'ai calculé, c'était aussi cher d'aller au Maroc et de faire les cours que d'aller dans le Sud-Ouest de la France et de faire les cours.
Ouais. Parenthèse, il y a deux vidéastes britanniques, il me semble, qui ont fait un calcul similaire et qui l'ont vraiment fait l'expérience, c'est ils ont testé de voir si c'était le moins cher entre faire des courses près de chez eux en Bretagne ou alors aller faire les courses au Lidl en Pologne. Et ça revenait moins cher d'aller faire ses courses de l'autre côté de la Manche.
Quoi ?
En Europe continentale que de les faire au Royaume-Uni. Quoi.
What the fuck ?
Mais comment ?
Parce que les prix de l'avion, c'est tellement cassé.
Ouais.
Ça a tellement aucun sens, quoi. Oh. Et les prix des aliments dans les îles. Enfin, et encore, le Royaume-Uni, c'est tout près du continent.
Ouais.
Bah, ça devient vite hyper cher, quoi.
Ok. Et moi, c'est aussi que chez ma grand-mère, je paye pas le logement.
Oui, ça aide à réduire la facture.
Oui, non, mais vraiment, c'est ça, vraiment dans mon calcul de ma situation. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué comme de pratiquer ce sport quand on habite à Paris. Je vous le cache pas. Même si il y a un endroit, alors je sais pas si c'est encore ouvert dans le 15e, où c'est une vague artificielle. Alors. C'est une donc en gros
c'est pas à quoi boulevard
Grenelle
c'est une salle à part où il y a aussi un truc de squash et c'est une vague artificielle donc c'est un plan incliné mais en fait en gros tu dois en fait avec ta planche quasiment sauter directement sur la vague qui est déjà en formation qui en fait ce sont des jets d'eau c'est pas tout à fait une vague et tu dois tenir mais par contre en fait c'est un sport un peu différent parce que c'est très, très, très violent et physique. Là où moi, quand je fais, on va dire, 1h30 de surf dans la mer, dans l'océan, allez, je prends 10 vagues. Et en vrai, je passe plus mon temps, et c'est épuisant d'ailleurs, parce que je passe plus mon temps à lutter contre le courant pour en mettre au bon endroit qu'à vraiment surfer. Alors que là, quand tu surfes à la vague artificielle à Paris, c'est ultra physique parce que surtout, bah, tu tiens, allez hop, 10 secondes même pas sur la vague. Et en fait, forcément, à un moment, tu tombes. Et même, c'est pas du béton, hein, là où est l'eau, mais c'est quand même un peu dur. Et je me suis fait des bleus, mais énormes. Donc, clairement, je me dis, si j'y vais, il faut que j'en sois en méga forme physique parce que...
Ça fatigue.
Ça passe pas. Tu vois, si t'es fatigué, il faut que tu sois en forme pour faire ça.
Okay.
Voilà. Donc, c'est vraiment le kiff pour le sport du surf. Et tu vois, là, vraiment, jeudi, on était... C'est une petite cabine en bois qui est au bord de la plage où tu as donc... moi, je faisais juste... Je viens louer, en fait, la combi, la planche.
C'est à Casa, du coup.
Oui, à Casablanca. C'est ça. Et en fait, vraiment, le Maroc, c'est un super pays pour aller surfer, si les gens ne connaissent pas et qu'ils ont envie, parce que donc, le Maroc est en haut de l'Afrique et donc à une énorme côte de l'Atlantique. Et vraiment, tu as des spots de surf tout le long. Casablanca n'est pas très connu pour le surf. Il y a d'autres villes comme Agadir. Et puis, moi, où j'ai surfé, ça s'appelle le Walidia, qui est une lagune naturelle, qui est un endroit... C'est trop bien. Bref, Casablanca, ça peut aussi être une destination pour aller surfer. Parce que moi, là où j'allais, c'est des petites vagues, mais il peut y avoir des très, très, très grosses vagues. Et j'en profite, je finis ce kiff avec un conseil de podcast. Si le surf vous intéresse, vous voulez en savoir plus sur les gens qui en font. Alors, c'est beaucoup des interviews. Je conseille un podcast de surf qui s'appelle Impact Zone. Et où, en fait, à chaque fois, c'est une interview d'un surfeur ou d'une surfeuse, ou alors de quelqu'un qui a fait un documentaire sur le surf. Donc, il faut s'y connaître un petit peu, parce que sinon, on ne comprend rien du tout. Mais juste, j'aime bien les questions qu'ils posent, les gens qui racontent leur trip surf, même la façon qu'ils ont eu de progresser. C'est un petit peu ma façon de picorer. Parce que moi, je surfe en novembre, mais même quand je vais au Maroc en décembre, je surfe aussi, hop. Même s'il fait super froid, enfin, Maroc en décembre, quoi. Mais j'y vais quand même. Donc voilà, c'était mon kiff.
Oh, incroyable. Trop stylé. J'ai envie d'être en vacances.
Ouais, moi j'ai quand même 2500 questions à te poser, du coup. Je sais même pas par laquelle commencer. Mais tu disais que t'aimes cette sensation de glisser sur l'eau. Et vu que c'est un truc que j'ai jamais fait, je me demande à quoi ça ressemble. Et je me demande si... peut-être que c'est une question complètement bête hein, et tu m'arrêteras. Mais tu parlais de ski tout à l'heure. Est-ce que... j'ai jamais fait de snow. Enfin, j'en ai fait une fois dans ma vie, j'ai fini sur les fesses, donc j'ai jamais vraiment fait de snow. Mais en revanche, je fais du ski. Et je me demandais, est-ce que ça peut ressembler à un certain point à...
Bah peut-être. Alors j'ai jamais
fait
de ski.
La glisse sur neige, du coup.
J'ai jamais fait de ski, mais tu vois, ça m'attire pas, ni le snow, ni le ski, parce que bah, tu te fais mal. Et puis il y a tout l'équipement, c'est hyper encombrant. Alors que quand tu surfes dans l'eau, bah, tu tombes dans l'eau, t'as pas mal. Et c'est moins encombrant. Moi, c'est vraiment le côté très pratique et la peur de me faire très très mal.
Je pense que le ski, c'est beaucoup plus dangereux, je pense.
Oui.
Enfin, les impacts avec les autres, mais... la vitesse et
c'est
tout.
Ça. Le côté glisse, bah, je pourrais pas te dire. Ouais. Peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont fait les deux, donnez-nous votre ressenti, mais je pourrais pas te répondre.
Et est-ce que t'es attachée à ta planche ?
Oui, on a ce qui s'appelle un leash, qui est d'ailleurs une invention française. Les Américains, mais pas qu'eux, ont inventé les planches. Mais en France, on a inventé le leash, donc qui est le fil qui relie de la planche à la cheville, ou parfois au mollet. Ah oui, parce que sinon, ce serait pas possible. Oui, oui, oui.
Mais sinon, tu cours après ta
planche,
quoi.
C'est juste impossible. Ouais. En fait, oui, non, il faut être rattaché. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du paddle, où là, ils sont debout sur leur planche et ils pagaient comme ça debout. Parfois, qui ne sont pas reliés. Mais c'est quand même mieux, parce que bah, si tu te fais emporter par une vague et que ta planche part comme ça, t'es un peu embêté.
Et enfin, il y a une dernière question que je me suis toujours posée en regardant les gens surfer, enfin en voyant des gens surfer. C'est, est-ce que tu peux, quand tu tombes, par exemple, te prendre ta planche dans la gueule ?
Ah oui.
Ça peut faire mal, ça.
Ah oui, oui, ça fait mal. Mais du coup, bah, t'apprends à tomber. Moi, par exemple, si je tombe, bah, je me mets un peu en boule, en position fœtale, avec les bras autour de la tête.
Okay.
Pour protéger ma tête au cas où. Et notamment, normalement, tu as aussi une combi qui quand même amortit un peu les chocs. D'ailleurs, en fait, là, pour une fois, j'avais mis une combi shorty, donc qui s'arrête au coude et au genou, et bah, ça n'a pas raté. J'ai un énorme bleu sur le genou.
Ah, mais sinon, ça amortit du coup
ça,
à peu près
ça
le choc.
Ça amortit, mais moi, j'ai déjà eu vraiment, parfois, quand tu as vraiment... si tu te prends ce qu'on appelle une dérive, donc en fait, sous la planche, tu as des petites... comme des nageoires... qui permettent en fait de te diriger tout ça. S'il y a des gens spécialistes de surf qui m'écoutent, ils vont dire oh, dis n'importe quoi. Bon, vraiment, moi c'est, j'ai dit, je suis surfeuse en carton. C'est vraiment la surfeuse du dimanche où juste je kiffe le sport, mais je fais ça vraiment pas de
c'est
façon
un loisir
profite.
Quoi.
Voilà, c'est un loisir, mais voilà, comme disait Pauline la semaine dernière, ouais, je suis pas une pro ni rien. Mais donc parfois je me suis déjà pris une dérive. Je me rappelle dans une côte et ça avait un peu traversé la combi. Alors bizarrement, ça avait pas fait de trou dans la combi, mais moi j'avais eu un peu une petite entaille. Donc ça peut faire mal, mais vraiment c'est très très rare, parce que justement tu apprends à tomber, bah, comme dans beaucoup de sports qui peuvent être un peu violents, bah, tu apprends comment tomber et te protéger.
Trop intéressant,
incroyable.
Et ben voilà,
j'en ai jamais fait moi.
Et plus. Ben écoute, ouais, si t'as l'opportunité, ouais, voilà. Après c'est, ça peut être chouette à expérimenter, oui. Mais dans,
je ne sais pas nager, donc
ah ouais.
Ouais, oh vraiment, enfin comme une sorte de chien quoi. C'est, je nage vraiment hyper mal, j'ai trop peur de l'eau, donc.
Après là, moi je te dis, je surfais là où j'ai pied.
Mais voilà,
c'était mon kiff.
Trop cool.
C'est trop bien.
Bah, merci beaucoup. Ça
avec
donne,
plaisir.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Grave envie. Ariane, c'est quoi ton kiff ?
Alors, moi, cette semaine, mon kiff, c'est encore lié à mon apprentissage de la vie seule. Décidément, voilà. Mais à la fois, quand même, c'est une réflexion un peu plus globale et universelle. Mon kiff cette semaine, c'est découvrir des choses sur moi que je pensais savoir, des certitudes que je pensais avoir sur moi, sur mes goûts, etc., et qui, en fait, se révèlent être plutôt erronées. Et ce dont j'ai envie de parler, notamment, c'est le fait que j'ai toujours dit « Non, mais moi, regarder des films et des séries, ça me saoule. » Il faut savoir que quand j'habitais chez ma mère... En vrai de vrai, on regardait très peu de films, très peu de séries. On passait plutôt les dîners ensemble à parler. Et à la rigueur, quand il y avait encore mon père qui habitait chez nous, on regardait la télé et dans un silence de mort, parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse un seul bruit devant son émission. Tu vois. Ce qui fait que je regardais très peu de films, même de mon côté, très peu de films et de séries, parce que je passais plutôt du temps avec ma famille ou à faire d'autres choses. Soit je lisais un peu, soit vous savez que j'ai eu des passions nombreuses, que j'arrête au bout de 2 mois, bon voilà. Mais en tout cas, les séries et les films, c'était pas trop mon truc. Même aller au ciné, c'était pas non plus une dinguerie pour moi. Et depuis que j'habite seule, j'ai découvert que, comme je n'ai plus personne avec qui parler, la tristesse de cette phrase, comme j'ai plus vraiment quelqu'un à qui parler quand je suis seule, que je rentre du taf ou le week-end, machin, j'ai comme développé une sorte d'ouverture à des contenus qui sont proposés sur Internet. Et je pense que j'étais pas sensible à ce contenu auparavant. Ce qui fait que j'ai commencé un peu à diguer sur bon les plateformes classiques, sur comment dire les sites de replay type France TV / Arte, etc. Même j'écoute beaucoup plus de podcasts qu'avant parce que j'ai en quelque sorte plus de temps pour moi. J'ai plus de temps seul. Alors je pourrais l'utiliser. Parfois, je fais aussi de l'introspection et je suis dans un silence de mort chez moi. Mais ouais, ça me dérange pas du tout.
Moi, ça me terrifie souvent le silence.
Ah ouais.
Mais j'admire les gens qui arrivent à le tolérer. Bravo.
Mais avant de déménager, j'étais absolument terrifiée de me dire putain, je vais me retrouver en silence avec mes pensées. Ça va être terrible. Mon cerveau à mille à l'heure. En fait, pas du tout. J'ai pas du tout de problème à rester dans le silence. Il se trouve que donc j'ai commencé à diguer, comme je le disais, sur les plateformes, etc. Et je découvre que j'aime regarder des films. J'aime découvrir des films que je connaissais pas. Je commence à... Enfin, au-delà de découvrir des nouvelles choses que j'aime, j'apprends aussi à savoir quel genre j'aime, quel genre de film, quel genre de série j'aime regarder, etc. C'est quelque chose que j'avais pas du tout exploré ça avant. Pour moi, les séries, ça me faisait chier, c'est long, il y a plein d'épisodes. Les films, bon, c'est bien, mais j'arrive pas trop à me concentrer. Puis j'y connais rien, j'étais un peu persuadée que pour regarder des films, il fallait être cinéphile parce que sinon t'avais aucune ref et tu comprenais rien. Bon, je suis pas encore totalement sortie de cette croyance, mais disons que ça commence à aller mieux, etc. Je regarde des films que je pensais, mais vraiment, ne jamais regarder avant. Typiquement, hier, j'ai regardé un film d'Agnès Varda. J'avais jamais vu aucun film d'Agnès Varda. Pourtant, je connais son nom en tant que réalisatrice. Je sais à quel point elle est importante dans l'histoire du cinéma français. Mais j'avais jamais rien vu d'elle. Et j'ai enfin regardé un film, à savoir Cléo de 5 à 7. Et ce film, j'en ai entendu parler des milliards de fois, en bien, mais sans vraiment m'y intéresser, sans vraiment me dire « bon, bah, je vais le regarder un jour », etc. Et hier, je me suis dit « il y a plein de films d'Agnès Varda sur Netflix, donc si vous avez l'occasion, regardez-les ». Et voilà, et ce film-là est à moitié en couleur, à moitié en noir et blanc. C'est un film qui date des années 60 tardives. C'est un film à moitié en couleur, à moitié en noir et blanc, qui se passe presque en temps réel. Donc, en gros, Cléo attend les résultats d'un examen médical entre 17 et 19 heures, un mardi. Comme ça. En gros, le plot, c'est ça. On suit ce qu'elle va faire pendant ces deux heures pendant lesquelles elle angoisse parce qu'elle est persuadée d'être malade. Les rencontres qu'elle fait, les balades, donc c'est trop bien parce que c'est un film lent. Moi, j'adore les films lents qui racontent rien. C'est comme les romans, en fait. Je constate que j'aime la même chose dans les romans que dans les films. J'adore les romans qui racontent rien, qui racontent juste des vies de gens, mais sans forcément du suspense, des choses palpitantes, etc. Je vous ai déjà parlé du fait que j'adorais les romans du 19e siècle. Je pense que ça vient de là. Voilà, donc c'est lent, elle rencontre plein de monde. Je dirais que c'est assez poétique, il y a assez peu de musique, il y a beaucoup de silence, il y a une atmosphère assez flottante, je trouve, dans ce film. Tout ça pour dire que j'étais persuadée que j'aimais pas trop regarder des films, pas trop regarder des séries, que je m'y intéressais moyennement, l'esthétique, les histoires que ça raconte, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut apprendre même sur nous dans ces œuvres-là. J'étais persuadée que c'était pas pour moi et je suis ravie de comprendre que je me suis trompée. Et ça fait du bien.
C'est surtout parce que c'est pas toi qui choisissais, en fait.
Oui, aussi. Mais j'aurais pu, par exemple, aller dans ma chambre et regarder des trucs, quoi. Or, je le faisais pas. J'avais l'impression que ça m'intéressait pas, tu vois. Voilà, pour ce kiff.
C'est trop cool comme kiff.
Donc, on peut l'appeler ce kiff se redécouvrir en vivant seul ?
Oui, ça
ouais,
peut.
Mais trop, trop hâte de savoir tout ce que tu vas... redécouvrir encore.
Tu auras plein de kiffs et de recos à nous faire.
Ouais, exactement. Exactement, et ça me laisse. Parce que je me souviens quand je me souviens en mode, c'était il y a 1000 ans. Quand j'étais encore chez ma mère, je me disais, mais comment vous faites pour lire? J'ai l'impression d'avoir aucun temps. Quand est-ce que vous lisez, etc. Et en fait, mais juste en habitant seule, je découvre que j'ai plein de moments. J'ai plein de moments où juste c'est calme, je suis pas en train de piailler avec mes sœurs. Et du coup, bon, bah, je lis le matin, comme tu disais, Anthony. Je lis le matin, c'est trop bien. Comme j'ai plus de temps de transport, je lis dans le métro et tout. Enfin, vraiment, ma vie change et c'est super.
Oh,
j'ai
du temps trop pour bien. Moi.
Et puis tu vas te recréer aussi tes habitudes à
Exactement.
Toi qui te correspondent, enfin, qui correspondent à tes goûts.
Ouais,
c'est beaucoup une question de goût. Ce que j'allais dire aussi, c'est que, en fait, tu connaissais pas tes propres goûts, quoi.
Ouais, exactement.
Et là, t'es en train de les affiner. Ouais. C'est hyper important et précieux. Donc,
c'est clair.
Trop bien.
Ouais, merci.
Et ça évolue aussi, c'est dynamique. Mmh. Donc,
Et donc, aller regarder des films d'Agnès Varda sur Netflix.
Oui,
c'est ce que tu disais.
Allez-y.
Eh bien,
Oui.
Ah. Transition parfaite. Incroyable. Parce que j'allais faire trois kiffs et dont un documentaire d'Agnès Varda qui s'appelle Black Panthers. Mais attendez, du coup, tu parlais de plateformes de streaming, etc. Donc hier, je suis allé voir un documentaire de Agnès Varda qui est assez méconnu de sa part, qui s'appelle Black Panthers, où en fait elle a suivi le Black Panthers Party aux États-Unis en 68. Le documentaire dure 30 minutes, il a été filmé en caméra 16 mm, c'est magnifique, elle a un sens de la composition incroyable. Elle appelle les policiers les cochons dans tout le documentaire. c'est vraiment trop cool. Bon, en reprenant l'expression des Afro-Américains qui l'emploient avant elle. Mais elle prend vraiment parti, c'est hyper important. C'est hyper. C'est un film qui est assez méconnu de sa part et je trouve que ça en dit long aussi sur ce qu'on retient d'Agnès Varda en fait. Et ce qui serait du bon ou du mauvais militantisme. C'est un angle mort de l'appréciation d'Agnès Varda que je trouve assez dommage. Donc je vous recommande chaudement et notamment il est disponible non pas sur Netflix mais sur la Cinéthèque qui est une plateforme de streaming de films d'auteurs plutôt. Surtout français, c'est une plateforme de cinéastes qui a été lancée par des cinéastes. Avec l'appui de plein de cinéastes. Et en ce moment, du coup, il y a Black Panthers de Agnès Varda. Mais il y a aussi, surtout, un cycle, une rétrospective autour de la filmographie de Delphine Seyrig, qui est une grande actrice et cinéaste. Et du coup, c'est des films dans lesquels elle a joué, mais c'est des films qu'elle a réalisés. Et du coup, c'est trop cool. Enfin, ça a commencé fin septembre, c'est jusqu'au 28 décembre. Et la Cinéthèque, ça s'écrit C-I-N-E-T-E-K. Du coup, c'est trop trop cool. Ariane, ça se trouve, ça peut t'intéresser si t'as bien aimé Agnès Varda.
Ça fonctionne sur Abo ? Comment ça marche ? Ou tu peux louer un film ? Non, c'est abonnement.
Si, tu peux aussi louer des films. Mais donc, soit tu prends une formule d'abonnement classique où en fait c'est 4,99€ par mois sans engagement. Soit tu prends la formule qui est un peu moins chère, annuelle, et du coup tu t'engages pour un an. Et c'est sans reconduction tacite, tu sais, les trucs qui te réabonnent automatiquement. Et... Ah non, mais vous n'avez pas dit non au bon moment, du coup vous êtes abonné pour un an supplémentaire. Donc là, c'est vraiment un abonnement plutôt honnête et c'est 50€. Du coup, c'est comme si tu gagnais 2 mois, quoi. Je suis un peu nul en maths, mais je crois que c'est ça. Et sinon, il y a une autre formule qui permet d'être abonné au streaming et aussi de pouvoir louer des films en dehors de ce qui est proposé. Parce qu'en fait, tout le catalogue n'est pas disponible en permanence, il me semble. Et il y a des films qui sont disponibles à location et pas... disponible en streaming, quelques exceptions comme ça. Et voilà, et du coup, Delphine Seyrig, c'est hyper intéressant parce qu'elle a fait plein de films, elle a aussi joué dans plein de films hyper connus comme Podan, et un film là qui a récemment été couronné comme le film meilleur de tous les temps, Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman, 1975, bref, donc allez vous abonner à la Cinédèque.
Je le fais de ce pas. C'est pas une blague.
J'adore.
Elle a sorti sa carte là.
Exactement. Je la connais par cœur. Je connais.
Waouh.
Sérieux?
Bien sûr.
Arrête.
Ouais. Bah si.
C'est que tu fais trop d'achats en ligne, non, Ariane?
Non, mais quoi, non, je fais pas trop d'achats en ligne. C'est juste que, en fait, vous trouvez pas que c'est insupportable quand vous êtes en train d'acheter un truc, vous êtes bien dans votre lit là sur l'ordi et là il faut sortir pour aller chercher la carte.
C'est tellement insupportable.
Justement, je trouve que cette friction elle est importante, ça te permet de conscientiser tes achats.
C'est pas faux. C'est pas faux.
Et c'est pour ça que je n'enregistre pas mes cartes sur l'ordinateur.
Ouais, moi non plus pour
ça. Parce que sinon c'est trop facile, t'achètes en deux clics.
Ouais, ouais. Je vous ai raconté ou pas ma vie sans carte pendant un mois?
Pas du tout.
Je vous ai pas raconté, je vais faire une très brève et rapide parenthèse, mais et après tu pourras continuer ton kiff, parce que t'as pas fini je crois. J'ai vécu un mois au mois de septembre sans carte parce que normalement quand vous arrivez à l'échéance de votre carte, la banque vous en renvoie une, sauf que ma banque ne m'en a pas renvoyé. Et je m'en suis aperçue quand tout simplement j'ai mis ma carte dans une machine de retrait et que on m'a dit paiement impossible, vous n'avez pas les fonds ou je sais pas quoi. J'étais là mais what? J'ai regardé mon appli, carte périmée. Et donc bref, le temps de... parce que j'ai dû reprendre rendez-vous avec eux parce qu'il fallait changer de carte et le temps qu'ils m'en renvoient une autre, etc. Ça a mis un mois. Et ben je peux vous dire que ça a changé mon compte bancaire sur le mois en question.
Ah ouais.
Parce que j'ai été obligée du coup de tout budgétiser pour retirer de l'argent pour avoir du cash sur moi. Et dès que je voulais faire un paiement en ligne, en fait, j'étais là. Ouais, mais non. Mais parce que d'abord, là, je peux pas. Ou alors, il faut que je prenne la carte de mon mec. Et après, je vais faire un virement pour le rembourser et tout.
Tu pouvais payer par PayPal.
J'ai pas PayPal. J'utilise jamais PayPal.
C'est pratique PayPal quand même pour pas mal de sites. Moi, j'utilise.
Clairement.
écoute, peut-être valait mieux pas que je le sache, parce que comme ça, ça m'a évité de faire deux achats compulsifs.
Moi, mon compte PayPal, c'est genre quand je fais des achats un peu compulsifs sur Etsy. Alors, on est sur des montants de 30 ou 40 euros, c'est pas énorme non plus, mais ça me donne non, regarde, ouais, c'est sur Etsy, c'est pas sur mon compte en banque, hop, je le vois pas, je le vois pas.
30 ou 40 euros fois 2 fois 3 fois 4.
Oui, non, mais là, vraiment, je te dis que c'est une fois tous les 6 mois que je fais ça. Vraiment, on est sur des choses petites, mais c'est vraiment en mode, oh non. C'est pas sur mon compte, mais donc PayPal, c'est pratique, effectivement.
Bah écoute, je ne l'utilise pas. Et ce qui fait que du coup, j'avais vraiment que du cash sur moi. Et je ne pouvais pas faire de paiement en ligne, à moins que je demande...
T'es une dealeuse de drogue, Marie-Stéphanie, tu avais du cash sur toi.
Ouais. J'avais un peu peur de... Mais non, mais et c'est fou parce que tu te rends compte aussi à quel point les gens se sont habitués à la carte. Par exemple, tu vas prendre un café dans un café, t'as déjà le montant qui s'affiche sur le truc de carte et t'es là, bah non, ou tu payes un taxi avec du liquide, le mec est limite pas content que tu le payes en liquide parce qu'il a pas la monnaie nécessaire à te rendre, quoi. Et bref, et ça rationalise vachement ton rapport à l'argent, je trouve, et ça te permet de te rendre compte à quel point, surtout, on s'est habitué à la carte et au final à pas regarder ce qu'on dépense. Bref.
Bon, ça dépend pour qui, voilà. Cela dit, quand même. Ça... Parce qu'il y a des gens qui regardent quand même vachement.
Non, mais quand je dis pas regarder ce que tu dépenses, c'est genre, moi j'adore prendre un Starbucks, tu vois, et ben là du coup je le faisais pas, et c'est 5 euros x 3 économisé, c'est 15 balles. Et
ça a grave monté les Starbucks, je suis outrée, là j'ai vu. Bref, pardon.
Donc voilà, c'était la parenthèse, juste pour dire que c'est aussi un kiff de ne pas avoir de carte bancaire pour justement ne pas acheter.
Ok.
Sans transition.
Pardon, sans transition aucune, brutalement. Donc, mon kiff ne sera donc pas Black Panther, Yas Varda, même si j'ai adoré le voir. Et du coup, je l'ai vu dans le cadre de Tonnerre, le ciné-club de Elvire Duval-Charles, hier, au Reflet Médicis, un cinéma dans le 5e à Paris. Et c'était incroyable parce que ça a été. Le court-métrage a été suivi d'une discussion avec, avec notamment Kevin Donna, qui est un guide touristique du Paris Noir, qui est hyper intéressant. Et Irénée Garcia-Galan, qui est. Une féministe militante anarchiste qui a écrit notamment un livre sur la colère féministe et l'emploi de la colère, les démonstrations de colère de femmes à travers l'histoire. Comme quoi, parfois, elle peut être légitime ou pas, hein, c'est pas la question, mais montrer qu'il y a parfois des femmes féministes qui sont mises en colère et que ça valait la peine. Bref, un livre que je vous recommande.
Mais intéressant.
Pas mon kiff. Mon kiff ne sera pas non plus Rectum Crocodile, un spectacle de Marvin Mtomo qui a été joué du 1er au 3 novembre à Genève, au pavillon ADC.
Mais là, en fait, il nous fait une thématique. Non, mais... Ceci n'est pas mon kiff. Ceci n'est pas mon kiff. Ceci, trouvez mon kiff.
C'était extraordinaire, mais je n'en parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps.
J'ai rien compris à ce que tu as dit en plus, donc c'est dommage.
Ça s'appelle Rectum Crocodile, qui était un défilé spectacle de Marvin Mtomo qui a été joué du 1er au 3 novembre au pavillon ADC. Donc, c'est le pavillon de la danse contemporaine de Genève. Et c'était un spectacle incroyable. Ah bon ?
Ouais.
Ok.
Mais tu n'y étais pas encore allé.
Ouais, j'y étais pas encore allé. Du coup, j'en parlerai peut-être un jour, mais si ça passe à Paris. Et du coup, mon kiff, ça va être... bref, c'est un roman graphique qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » de Émile Ferris. Je ne sais pas si vous voyez.
Non, pas du tout.
Alors,
le titre me dit quelque chose.
C'est un roman graphique qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie en France en 2017, parce qu'il a été multiprimé. Je crois qu'il a eu, du coup... Le Fauve d'Or à Angoulême en 2019, le Grand Prix de la critique ACBD en 2019 et le prix du meilleur album décerné par Eisner en 2018. Et bref, donc pour en venir à l'histoire, c'est du coup un sacré pavé qui fait 400 pages, mais c'est un roman graphique, donc c'est comme de la bande dessinée, quoi. 400 pages, et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Karen, qui grandit dans le Chicago des années 60. Elle a 10 ans et elle est fan de surnaturel, de monstres surtout. Donc les vampires, les fantômes, les Frankenstein, etc. Ça la passionne. Et en fait, elle est... donc, c'est sa perspective qu'on a à travers tout le roman. Et donc, elle se représente, elle s'imagine comme étant un petit monstre avec des dents pointues de vampire. Donc, on la voit que comme ça. On ne connaît pas son vrai visage. Et encore, moi, au départ, je n'avais pas compris que c'était un monstre. J'avais juste cru qu'elle était un peu vilaine, quoi. Et du coup, je lisais, j'avais du mal à rentrer dedans parce qu'en fait, c'est un trait particulier qu'a Émile Ferris. En fait, elle dessine tout au stylo bille, voire en fait, c'est du 4 couleurs. J'ai compris ça qu'après lecture, quand je me suis renseigné sur l'autrice. Mm-hmm. Mais en fait, c'est que du crayonné plutôt noir. Et parfois, il y a des aplats de couleurs. Enfin, c'est même pas des aplats, c'est des crayonnés de couleurs qui sont assez rares. Et en gros, elle raconte... Karen, donc l'héroïne qui a 10 ans, raconte quelque chose qui vient de se passer dans sa résidence. Sa voisine du dessus a été retrouvée morte dans son lit, une balle dans le cœur. Donc la thèse privilégiée par la police, c'est un suicide. Enfin, nous, en tant que... je sais pas, j'ai envie de dire, personne vivant au XXIe siècle, on se doute que c'est peut-être un féminicide. Et du coup, la petite essaye de mener l'enquête et elle est fascinée par tout son voisinage. Donc elle enquête, elle va voir chez les voisins, elle essaie de retrouver des choses. Et donc elle va évidemment voir le mari de cette voisine qui a été tuée. La voisine s'appelle Anka. Et en gros, son mari, il est un peu, il est très triste de la mort de son épouse. Et il a découvert des bandes magnétiques, enfin des cassettes audio, pardon. Et du coup, il commence à les écouter avec la petite. Et en fait, on apprend des choses. Et donc, avant qu'il y ait ce meurtre et cette découverte des cassettes audio, j'avais un peu du mal à rentrer dans le livre. Mais en fait, les cassettes audio racontent la vie de cette voisine qui a été assassinée. Ou pas assassinée, je peux pas vous dire. Et en gros, c'est absolument passionnant quand on rentre dans l'histoire de cette femme qui s'appelle Anka, qui est une survivante de la Shoah, en fait. Et c'est vraiment génial, c'est une écriture qui est assez belle parce qu'on passe de la perspective de cet enfant qui est pleine de fantaisie macabre, mais pas que, à la vie assez torturée de Anka, qui a tout un autre imaginaire, mais qui est très poétique également. Et en parallèle, on apprend aussi à connaître toute la petite famille de Karen, donc l'héroïne, la gamine de 10 ans, qui a un frère coureur de jupons, un don Juan qui est surnommé Diz. Et la mère de Karen et de Diz, qui est une femme très très pieuse, on sent que c'est des latino-américains assez marginalisés dans un quartier pauvre de Chicago. Et du coup, c'est vraiment génial parce que ça apprend plein de choses sur la vie aux États-Unis à cette époque-là. Mais c'est pas un roman particulièrement social, c'est plus de la fantasy, quoi. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que, enfin, il y avait plein de surprises dans le roman auxquelles je m'attendais pas du tout, parce que les premières pages, vraiment, si vous accrochez pas tout de suite, c'est, je vous encourage à continuer un petit peu, parce que il y a des thématiques auxquelles je m'attendais pas du tout. Donc, en fait, l'héroïne de 10 ans est lesbienne, par exemple.
Non, mais je suis désolée de t'interrompre, mais là, je viens de trouver, c'est bientôt l'anniversaire de Morphine Blaze, donc ma pote drag queen, et vraiment, je cherche un cadeau, mais là, tu m'as donné, mais sur un plateau d'argent, ce que je vais lui offrir. C'est évident.
J'espère qu'elle n'écoute pas,
du coup. Oui. Non, t'inquiète, elle n'écoute pas. Elle ne sait même pas que ce podcast.
Je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais elle a des petits copains et copines, enfin des amis, je veux dire, des camarades de classe qui ont aussi des histoires particulières et tout, et c'est hyper intéressant. Et même la mère, l'histoire de la mère, vraiment, j'ai failli pleurer. Enfin, bref, tout est magnifique.
Génial, ça
donne
trop envie.
Et le crayonné, on s'habitue. Et surtout, en fait, le frère de l'héroïne, donc Diz, il est dessinateur. Il adore initier sa petite sœur au dessin et à l'imaginaire. Et du coup, il l'amène dans des musées. Il lui dit, allez, plonge-toi avec moi dans ce tableau. Et du coup, il y a plein de tableaux qui sont refaits par la dessinatrice-autrice. Et c'est vraiment magnifique parce qu'on les voit réinterpréter les tableaux, prendre vie aussi et tout. Donc il y a plein de classiques de la peinture occidentale principalement. Et voilà, donc vraiment j'ai adoré, je m'y attendais pas du tout. C'est un livre qui a été imposé par mon club de lecture. Enfin je dis imposé comme si c'était un supplice alors qu'en fait...
Non, mais c'est lui dont vous allez parler ce soir du coup.
Exactement.
Ouais, c'est
du coup, en dégustant un crumble délicieux. Mmh. Du coup j'étais pas du tout prêt à... Enfin j'avais aucune attente particulière, j'avais jamais entendu parler de ce livre. Et je m'y suis plongé sans a priori ou quoi. Et les premières pages, je me suis dit, ouais, bof. Et après, j'étais absorbé. Je l'ai lu d'une traite. Donc voilà. Ça s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est édité chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Je crois qu'il reste assez peu d'exemplaires sur l'e-shop officiel de la maison d'édition. Il en restait 3, mais peut-être qu'ailleurs, vous allez en trouver. Et sinon, n'oubliez pas, les médiathèques, c'est la vie. Enfin, moi, je l'ai emprunté à la bibliothèque.
Ouais.
Gratos, ou presque. Je crois qu'il paye 10 euros par an pour avoir accès à l'entièreté d'une bibliothèque. Enfin. Bref, c'est vraiment sous-côté des bibliothèques que je comprendrai jamais.
Tellement d'accord.
Le peu de recours aux biblios. Et donc, juste petite parenthèse sur l'autrice, parce qu'en fait, du coup, après, j'ai lu la quatrième de couverture, parce que je lis jamais la quatrième de couve. Et donc, après lecture, je l'ai lu, et je me suis rendu compte que l'autrice avait une vie complètement folle. Enfin, je peux pas vous raconter toute sa life, mais en gros, elle a commencé ce roman graphique qu'elle a dessiné pendant 6 ans. Suite à une piqûre de moustique qui l'a laissée quasi paralysée. Oh. Donc le jour de ses 40 ans, elle a été piquée par un moustique qui lui a filé une maladie. C'est une méningo-encéphalite.
Okay.
Et c'est un truc qui faisait qu'elle ne pouvait plus bouger, alors qu'elle était dessinatrice, illustratrice, jeunesse. Et du coup, elle s'est scotché un stylo à la main afin de pouvoir dessiner des choses depuis son lit d'hôpital.
Mais non.
Et donc, elle a fait ça de 2010 à 2016. Donc il lui a fallu 6 ans pour dessiner les 600 pages de la BD. Dans la collection, dans l'édition originelle. Je crois que dans la version française, ça fait 400 pages. Mais quand même, imaginez, elle a commencé avec un stylo scotché à la main, quoi. Donc ça lui a pris un temps monstrueux. Et elle a tout dessiné avec un stylo 4 couleurs, quoi. Et ce que je trouve très amusant, c'est que tout est dessiné comme si c'était dans un cahier à spirale. Donc, c'est comme si on avait scanné le cahier à spirale d'une gamine de 10 ans qui dessinait après les cours, quoi. Et bref, c'est vraiment génial. Et tous les personnages secondaires sont trop adorables et complexes aussi. Tout le monde n'est pas tout rose. Au contraire, il y a beaucoup de complexité dans chacun des personnages. Et il y a une seule case où on voit le vrai visage de la gamine. Et c'est hyper intéressant. Enfin, ça raconte plein de choses sur l'image de soi, sur la préadolescence, sur le désir, sur la curiosité personnelle en tant qu'enfant, sur les relations amoureuses qui sont parfois conflictuelles, sur les relations familiales qui sont souvent conflictuelles. Enfin, c'est génial. Et sur la maladie aussi.
Ça voilà. a l'air.
Je m'en dis pas plus.
Trop chouette.
Non, mais vraiment, j'ai trouvé un cadeau, mais sur un plateau d'argent, là, c'est génial, quoi. Merci, Anthony. Et aussi, je voulais, excusez-moi, dire autre chose sur la Cinéthèque. Je viens de voir qu'il y a un tarif réduit moins de 25 ans à 19 euros par an.
Oui, j'en bénéficie également.
Oui, tu en bénéficies, bien sûr. Et moi, j'ai la haine parce que du coup, bah, j'en bénéficie plus depuis aujourd'hui.
Depuis aujourd'hui ? Mon Dieu, mais pourquoi on ne l'a pas dit au début de ce podcast ? Je voulais le dire en introduction.
Mais je ne savais même pas.
De fêter un joyeux anniversaire à Ariane.
Merci beaucoup.
Collectivement.
Et ben, bon
anniversaire,
vous êtes adorables.
Franchement,
mais du coup,
je sais pas comment
va sortir. Ben...
Je sais pas comment on n'a pas mis.
C'est pas ta semaine d'anniversaire.
C'est ma semaine d'anniversaire. Attends, je le fête dimanche avec ma famille.
Évidemment, toujours. Ça compte.
LM quasi anniversaire.
Voilà.
Donc ouais, non, bah envoyez des messages de love et d'anniversaire à Ariane.
Et des 5 étoiles sur Apple Podcast.
Oui, aussi.
Ça peut être un beau cadeau.
Évidemment.
Et en fait,
si on a une recrudescence de 5 étoiles, d'un coup, on saura grâce à
qui. Et les commentaires sur Spotify aussi.
Oui, c'est vrai. Et je réalise un dernier point. Les 3 romans graphiques que j'ai lus dans ma vie, les 3 étaient lesbiens. Je sais pas pourquoi. Heureux hasard de la vie. Le premier, c'était Fun Home de Alison Bechdel. Vraiment, je crois qu'on en a déjà parlé dans l'MK, mais une pépite, lisez-le.
Mais pourquoi je connais rien de ce qu'Anthony mentionne à chaque fois? Merde.
Mais vous connaissez le test de Bechdel.
Est-ce que tu es là pour découvrir?
Oui.
Le test de Bechdel vient d'Alison Bechdel.
Moi, je peux pas mettre toutes tes refs en description de l'épisode, c'est pas possible.
Bah, faut faire plus de LMK.
Mon cerveau.
Alison Bechdel, donc elle a écrit Fun Home, qui ne veut pas du tout dire foyer joyeux, mais Funeral Home, genre pompe funèbre, quoi. Mais c'est très drôle. Le livre est très drôle. Donc, j'en dis pas plus. Vraiment Fun Home, Alison Bechdel. Et l'autre, c'est Coming In d'Élodie Font.
Un classique.
Journaliste française. Et du coup, moi, j'avais écouté le podcast et j'avais pas lu la BD. Et l'autre fois, à la médiathèque, je tombe dessus et je me dis, bon, bah, je vais prendre Moi, les monstres, c'est tout ce que j'aime. Et Élodie Font, au passage, quoi. Parce que j'avais écouté, je sais plus quoi, La Franchie Podcast, le podcast de la librairie La Franchie à Lille, où il y avait la rencontre avec Élodie Font qui racontait comment elle avait transposé son podcast en BD. Et c'était génial. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lire la BD en question. Et c'est vraiment hyper émouvant. Enfin, j'ai encore chialé pendant tout le week-end. Génial. J'ai adoré. J'adore lire en
chialant.
En chialant.
En chialant.
Mais de joie. Hein. Okay. C'est très tendre. Ouais. Donc voilà, Coming In d'Élodie Font. Si vous êtes en rade de romans graphiques à ouvrir
voilà,
à Noël.
Avec tout ce que tu as donné, on a quoi te tenir un mois, hein, clairement.
Non, mais c'est bientôt Noël. Offrez des romans graphiques, offrez des livres.
Offrez des romans graphiques, c'est vraiment vrai ça.
D'ailleurs, tu sais que j'ai offert à une amie Panorama.
Ah
le livre que t'as conseillé Marie-Stéphanie. Alors je sais pas si elle a aimé, mais en fait vu qu'elle travaille, elle travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, elle travaille en fait sur comment on se représente et tout ça, je me suis dit, je sais pas, j'ai vu un parallèle. Et donc quand je suis allée en librairie pour, comme dit Anthony, offrir un livre, vous m'influencez beaucoup trop dans ce podcast, hein, clairement. Et ben là je dis tiens, allez, je vais offrir un livre conseillé par Marie-Stéphanie.
Trop bien. Ben écoute, tu lui diras, tu lui demanderas.
Je vais lui demander.
Tu
oui.
lui demanderas si elle a aimé ou pas.
Mais je vais pas lui mettre la pression. Tu sais, il y a des gens qui prennent beaucoup de temps pour lire, donc je vais pas mettre la pression. Voilà.
Oui.
Non, si jamais elle m'en parle, je te le dirai. Voilà.
Oui, j'avoue. Je fais ça aussi depuis peu parce qu'un jour j'ai prêté un livre à quelqu'un et 3 semaines après je lui dis tu peux me le rendre et tout, elle me dit bah j'ai pas terminé en fait, j'étais la merde, tu lui mets la presse en fait, c'est pas bien, on lit pas tous à la même allure, non c'est clair,
c'est ça.
Mais trop bien, plein de recos de bouquins qui me donnent grave envie de lire. Et je voulais juste rebondir sur la médiathèque et la bibliothèque parce que c'est génial. J'y suis allée ce week-end avec ma fille. Ça faisait des millénaires que j'avais pas mis un pied à la médiathèque. Et en fait, c'est juste génial comme endroit. Non seulement si vous avez des enfants, mais également si vous n'en avez pas, tout simplement pour vous procurer des livres que vous avez envie de lire et où vous laissez porter par une découverte aussi. Et il y a des bibliothèques où il n'y a même pas de fee d'entrée, enfin
de coût d'inscription.
De coût d'inscription.
Mais
et ça,
sûr.
Je trouve ça assez ouf.
Ouais. Bah à Paris, il n'y a pas de frais d'inscription, si.
Je sais pas.
Je crois pas. Je crois pas, hein, parce que
moi j'ai une carte.
Mais je crois
du coup, moi aussi, je suis désormais banlieusarde.
Et non, et c'est cool parce qu'en plus, tu peux en prendre plein. Bon, alors, faut peut-être se limiter quand même
aussi.
Limite, parce
crois,
que voilà.
Mais...
Ça dépend des biblis.
Ça dépend des biblis, j'imagine. Et puis le temps aussi que tu peux garder.
Mais je crois que t'aimais pas stocker, Marie-Stéphanie.
Que j'aimais pas stocker ?
Oui.
J'ai dit ça ?
Oui, oui. Je te disais, pourquoi t'achètes pas tes. Tu t'as déjà l'idée des cadeaux que tu vas offrir à Noël ? Achète-les. Et t'as dit non, mais j'aime pas stocker.
Ah oui, ah oui, oui. Alors ça, j'aime pas. Oui, alors j'aime
stocker.
Plein
de livres à la bibliothèque,
moi,
ça te dérange
mais
pas.
Comment tu
cadeaux...
lui as. Attention,
non.
T'es.
Non, t'es parce contre... que c'est pas pareil. C'est pas... Parce que je vais les ranger dans ma bibliothèque. Je vais les ranger dans ma bibliothèque. Alors que si j'achète mes cadeaux de Noël avant, je vais vouloir les emballer et je vais vouloir qu'ils ne s'abîment pas. Donc je vais forcément vouloir trouver un endroit où les stocker qui ne soit pas un endroit déjà occupé par quelque chose. Tu vois, je vais pas les foutre sur ma bibliothèque emballée. Déjà que j'ai pas assez de place pour mettre tous mes livres à moi, alors.
Mais la bibli, ça permet aussi d'économiser de la place dans sa propre bibliothèque chez soi. Puisque tu les
rends. Tout à fait.
Oui, carrément. Ouais, ouais.
Donc
non,
ça
grave.
Peut être utile.
Ouais.
Parce que le pavé, là, moi, les monstres, c'est tout ce que j'aime. Ouais, ça fait 400 pages, ça prend de la place.
Ouais, ouais, ouais. Donc, non, go à la bibliothèque et à la médiathèque si vous en avez près de chez vous. Merci Anthony pour cette super reco.
Avec plaisir. Et toi, c'est
double,
quoi ton kiff, Marie-Stéphanie?
Alors moi, mon kiff cette semaine, et pour, je pense, la première fois dans LMK, c'est une artiste. J'avais envie de vous parler d'une artiste parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous avez écouté le premier ou le second LMK, je ne sais plus, celui où je racontais ma vie et où je parlais de mon podcast Femme d'art et de mon livre Femme d'art. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime l'art et les artistes et que je passe quand même pas mal de temps soit dans les ateliers d'artistes, soit dans les galeries. Et c'est vrai que j'en parle très peu au final sur MAD et très peu dans LMK. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une artiste qui a récemment eu une exposition à Paris qui s'est terminée. Mais comme nous sommes, je pense, tous et toutes présents et présentes sur Instagram, ce merveilleux outil qui nous permet de découvrir le travail d'artistes que l'on ne pourrait pas voir en vrai, eh bien, j'avais quand même envie de vous parler de cette artiste qui s'appelle Cécile Davidovici, que vous pouvez retrouver donc sur Instagram. Son compte, son at, c'est Cécile Davidovici, tout attaché. Cécile, C-E-C-I-L-E, Davidovici, D-A-V-I-D-O-V-I-C-I. Et cette artiste, que l'on pourrait aussi également appeler poétesse de l'image, parce que alors elle brode, elle fait de la broderie, et en fait quand je dis poétesse de l'image, c'est parce que c'est vraiment des œuvres très 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 poétiques et surtout extrêmement fines. Pour le parcours, on revient un petit peu sur son parcours, Cécile Davidovici, elle a fait des études de ciné à New York. Et c'est en 2018, il me semble, qu'elle a commencé à se mettre à la broderie comme un outil supplémentaire pour exprimer sa créativité. Elle était pas du tout... T'as vu ? C'est incroyable.
Ah, mais je regarde son compte Instagram, c'est incroyable.
Avant
c'est...
que tu dises que c'était de la broderie, j'étais dessus, j'ai cru que c'était de la peinture.
Alors
la
voilà
peinture
aussi pourquoi
ou des photos même, c'est incroyable.
Voilà aussi pourquoi je parle au final assez rarement d'artistes dans LMK, c'est parce que c'est très très difficile de vous décrire à l'oral son travail qui est très visuel. Donc effectivement, c'est de la broderie. On a l'impression que c'est de la peinture en fait, parce que il y a tous les détails de l'ombre, de la lumière, de la profondeur, et c'est une vraie prouesse en broderie parce que voilà, je sais pas si parmi nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui brodent, des personnes qui brodent, mais vous n'êtes pas sans savoir que la broderie, c'est un médium assez, comment dire, une dimension, quoi, enfin deux dimensions plutôt. C'est très difficile de mettre de la profondeur dans des portraits, par exemple, en broderie. Et Cécile Davidovici, en fait, elle a fait pas mal de recherches parce que elle s'intéresse beaucoup. Donc elle fait des portraits de personnes, mais elle fait aussi des natures mortes, des scènes de vie. Et elle était très frustrée au début dans sa pratique par le fait que avec la broderie, elle pouvait difficilement montrer les nuances, par exemple, de teintes de peau. Et la peau, c'est un endroit du corps qu'elle adore représenter. Et donc, elle a fait pas mal de recherches et elle a réussi à mettre au point une technique. Je cite, c'est une technique à base de croisillons. Ne me demandez pas exactement ce que ça veut dire. Mais le fait est que grâce à cette technique, ça lui permet de superposer les couleurs, de créer de la profondeur et de jouer avec les contrastes. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir son compte Instagram parce que ce sera plus parlant que là, moi.
C'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique, ouais. Ce qu'elle fait. Enfin, c'est pardon, magnifique. Mais je me répète, mais c'est...
Non, mais c'est assez dingue. Et c'est... Elle poste sur son compte Instagram des réels d'elle en train de... Enfin, des petites vidéos d'elle en train de broder. Et on se rend compte à quel point c'est fin, à quel point c'est long aussi, précis. Ça demande énormément de patience. Et voilà, c'est un peu... elle a un peu des doigts de fée, je trouve, parce qu'elle arrive à faire vraiment des choses extraordinaires. Généralement, elle part d'une image 3D qu'elle projette sur son écran d'ordinateur. Et à partir de cette image, elle va reproduire l'image, le portrait, la scène de vie en broderie. Je ne sais pas combien d'heures de travail ça lui demande, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça doit être extrêmement long. Et voilà, elle brode sur des toiles qu'après, elle encadre. Donc, on a vraiment cette impression de peinture, alors que en réalité, non, c'est de la broderie. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Son exposition à Paris s'est terminée il y a 2 semaines, mais vous pouvez voir son travail sur son compte Instagram. Et elle fait partie de ces artistes qui partagent vraiment beaucoup de son process de création. Et c'est assez chouette, que ce soit en story ou en petite vidéo, on peut vraiment rentrer un petit peu dans son quotidien et voir comment elle crée chacune de ses œuvres. Je pense même, alors j'ai aucune idée des tarifs, mais je pense même qu'on peut lui passer des commandes spécifiques si vous avez envie de faire je m'avance, j'ai aucune idée des tarifs, mais en tout cas, si un jour vous voulez faire peut-être un très beau cadeau à quelqu'un qui vous est cher et avoir son portrait ou votre portrait tous les deux en broderie chez vous, je pense que c'est complètement faisable. Voilà, je vous invite encore une fois à aller découvrir son travail, Cécile Davidovici, et je pense que ça peut mettre une petite touche de joie dans ce quotidien un peu anxiogène.
Et donc, tu as réussi mon défi encore de faire quelque chose de positif.
Ouais. Pas d'inquiétude.
Positif, bravo.
Eh bien, écoute, merci. Écoute, j'ai envie de continuer sur cette trend-là parce que je dois avouer que moi-même, j'ai besoin d'un peu de douceur et de beau et de choses joyeuses dans ma vie, tout simplement parce que l'actualité est pourrie et qu'il fait nuit à 17h45. Donc oui, je continue sur cette trend-là de kiff positif et sur cette jolie note. Eh bien, je vous recommande d'aller vous faire kiffer, vous aussi, en observant, en regardant ces très, très jolies œuvres.
Les natures mortes, là, je trouve.
Ouais, j'allais dire la même chose. Je préfère les natures mortes au portrait figuratif, mais c'est vraiment très beau, ouais.
Comme tu disais, le jeu avec la couleur et le surtout dans la lumière. La lumière, c'est assez impressionnant.
C'est fou, hein. Ouais, c'est hyper impressionnant, c'est hyper poétique, délicat. Voilà, Cécile Davidovici.
Bravo Cécile, quoi.
Bravo Cécile. Et on va finir sur cette note, ce podcast.
Big up,
bravo
Cécile.
Big up. Ben non, mais merci, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à tous les trois.
Merci
de nous avoir
beaucoup,
partagé vos
super.
Meilleurs kiffs. J'ai adoré vos kiffs de cet épisode, je tiens à le dire.
Ah, oh, mais oui, voilà.
Moi aussi. Cool.
Ça tremblait bien.
Tremblait bien.
Regardez des films bien.
Oui. Ouais, c'est ça.
Parfois, on manque de verbes, genre un verbe qui dirait regarder un film et un verbe qui dirait prendre le train.
Faut qu'on soit allemand et qu'on ait plus de vocabulaire. Ouais. En fait.
Y a pas de verbe pour dire prendre le train.
Moi, je dis, je m'entraîne à Genève et passe mon train.
Oh, c'est joli.
On est
bah ouais, mais tout le monde croit que je vais faire du sport alors que pas du tout.
C'est bon, faut qu'on finisse parce que moi, je dois aller m'entraîner.
Pardon.
À Dijon.
Oui. Et moi...
Super fin, j'ai adoré.
Bon, et bien sur ce, merci à tous les trois. Bisous les LM Cœur et on se revoit la semaine prochaine. Enfin, on se reparle. On s'entend. On s'entraîne.
Bye.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.